Tsugi Radio. Tsugi Radio.
Remise Session, en direct du Carmen.
Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
Une fois par mois, Tsugi Radio s'installe dans les fauteuils club du Carmen, dans le 9e à Paris, pour faire ce qu'on aime le plus, tendre le micro à des artistes de tous les horizons et écouter des DJ. Il est mort de rire déjà. Si vous étiez sur la Tsugi Radio, vous avez pu profiter du set de SLVN au platine juste avant. À partir de 23h, ce sera la pétillante Corinne qui va mixer pour nous. Et après, ce sera le tour de Fakir, des gens qu'on connaît bien sur Tsugi Radio et qu'on est ravis de retrouver. Mais d'abord, j'accueille Lola Avril, tu es chroniqueuse de Tsugi Radio, bien sûr. Salut Lola.
Bonjour Antoine.
Et tu seras à mes côtés toute la soirée pour tenter de répondre à la question du jour, ou peut-être qu'on répondra à d'autres questions, on verra, mais on va commencer par ça. Est-ce qu'être drôle en 2024, ça relève de la mission impossible ?
Et oui Antoine, et à l'heure de « on ne peut plus rien dire », il est vrai que faire de l'humour en France aujourd'hui peut être périlleux. En attestent les déboires restants sans de Guillaume Meurice pour une blague controversée sur France Inter, ou ceux de Mao, drama après son passage sur le plateau de Mediapart. Être drôle, c'est aussi en agacer certains et risquer des plaintes des militants RN, voire des menaces de mort. On va essayer d'éviter ça aujourd'hui, Antoine.
Oui, on va faire en sorte de ne pas avoir de menaces de mort ce soir. Autour de la table, donc, Corinne, Hugo Bardin, alias Paloma, Oldela, Fakir et Aymeric Lompré. Bonsoir à tous.
Aymeric Lompré. Ça commence bien. Démasqué.
Démasqué, ça y est. Salut tout le monde.
Bonsoir.
Bonjour. Coucou.
Salut.
Aymeric, je vais commencer avec toi. Tu remplis un peu les salles en ce moment avec ton spectacle YOLO que tu as écrit avec ton pote Pierre-Emmanuel Barré.
C'est un collègue,
tu,
ouais.
Tu nous cries tous les dimanches soirs sur France Inter que tu n'as rien entendu. Et on va commencer direct cash. Est-ce que tu as changé ta manière d'écrire depuis ce qui s'est passé avec Guillaume Meurice à cet automne et cette blague sur Netanyahou qui a fait tant couler d'encre?
Je ne vois pas de quoi tu parles. Est-ce que j'ai changé? Non, maintenant je me fous un peu plus de sa gueule. Mais non, mais on s'est rendu compte que c'était un sujet un peu sensible, le conflit, quoi. C'est en direct, hein?
Tout à fait.
Ouais.
Tu as un petit point rouge sur ton...
Je suis indien. Non, j'ai pas trop changé. Mais c'est vrai qu'on donne un peu moins son avis. Moi, j'ai du mal à donner mon avis là-dessus. Mais en tout cas, le donner est un peu plus périlleux qu'avant, je pense.
Mais ça t'a affecté, toi, personnellement, ce qui s'est passé? Parce que ça a secoué quand même pas mal l'équipe. Ça vous a obligé à faire l'émission, d'arrêter de faire l'émission en public le dimanche soir, en tout cas pendant une semaine. Est-ce que...
C'est parce que c'était les vacances. Ouais. Ça nous a... Non, ça a surtout affecté Charline Vanhoenacker qui produit l'émission.
Et qui nous écoute, elle est là ben parmi
voilà,
nous.
La censure, voilà, Israël. Non. Alors.
Pourquoi c'est moi qui commence?
Tant qu'ils résolvent le problème de la scène, en fait.
Été... Ouais. On m'entend là?
Oui.
Ok. C'est quoi la question?
Est-ce que ça t'a affecté personnellement, toi? Tout ce qui s'est passé?
Non, ce qui a été gênant, c'est que en fait, ce sont l'extrême droite qui a enclenché un peu l'agenda médiatique, parce que c'est un peu eux qui ont créé alors qu'il n'y a aucune polémique, quoi, je pense. Donc là où c'est gênant, c'est que maintenant l'extrême droite est rentrée dans le cercle démocratique, et du coup, on doit faire avec des émissions comme Pascal Pro ou TPMP, qui donnent leur avis et qui maintenant leur avis compte un peu même pour les services publics.
Et pourtant, Guillaume avait envoyé son livre à Pascal Pro, ce qu'il avait salué avant d'en
faire.
Mais
oui, parce qu'ils sont potes.
Oui, c'est ça ce que la France veut savoir.
Il avait envoyé son livre précédent.
Ouais, son livre précédent.
Ouais, ouais. Mais celui-là, il l'a pas envoyé. Mais c'est clairement Pascal Pro qui a déclenché là. Et c'est sa pote bourrée, Elisabeth Lévy, là, qui est toujours bourrée. C'est clairement eux qui ont lancé cette polémique qui n'en est pas une, puisque la blague n'est ni antisémite et ça reste une blague, quoi.
Est-ce que ces gens-là dont on parle, parce que je pense qu'on risque d'en parler plusieurs fois dans l'émission, Pascal Pro, Elisabeth Lévy, Finkielkraut, etc. Grande équipe. Est-ce que ce sont des gens qui t'inspirent à un certain endroit, Aymeric Lompré? Oui. Pour les qui te font faire des blagues. Est-ce qu'ils t'inspirent des blagues? Est-ce qu'ils t'inspirent l'envie aussi de réagir à ce qu'ils balancent tous les jours sur ce plateau de CNews?
Au début, ouais, mais après, je pense qu'il faut plus trop en parler pour éviter qu'ils aient une audience supérieure. Donc j'essaie de plus trop en parler, quoi. Mais c'est vrai que En fait, ils sont partout, quoi. Les fachos, hein. Et donc, non, j'essaie de plus trop en parler, ouais. Ils valent pas le coup.
Lola.
Et oui, je pensais aussi au spectacle d'Hugo, par exemple, dans Paloma Pluriel, où tu peux utiliser des personnages qui tiennent des propos atroces. Donc, les personnages atroces peuvent t'inspirer quelque part. Qu'est-ce que t'en tires, toi, de créer ce genre de personnage? Ça permet quoi? Ça permet de dire quoi? Et...
De dire des horreurs sans qu'on me les attribue. Non, mais c'est très différent parce que moi, je fais pas de stand-up. Déjà, je fais que des personnages. Donc, forcément, je ne dis pas que des choses que je pense. Je fais dire aussi aux gens des trucs atroces. Dans mon spectacle, j'ai des personnages racistes, des personnages misogynes. J'ai Fanny Ardant aussi, par exemple. Donc, forcément, tout ce que je leur fais dire ne sort pas de mon cerveau. Mais la limite entre ce que je m'autorise à leur faire dire et ce qu'on pourrait me prêter à moi est mince. Donc, c'est un petit peu difficile parfois. Donc, faire de l'humour trash ou noir, c'est un exercice un peu de funambule, quoi. Tu peux basculer très vite dans un truc politiquement incorrect, mais est-ce que c'est moi qui le suis ou est-ce que c'est le personnage?
Voilà. Oldelaf, qu'est-ce que ça t'inspire, ce qu'on se dit là? Je te vois que tu es prêt à parler.
Potentiellement, oui. Moi, je fais partie de ceux qui sont contents que Guillaume Meurice aille en prison. Ça faisait longtemps que je voulais... Ouais, il y a des choses qui dérapent évidemment dans ça, comme disait Aymeric, il y avait pas de polémique, mais j'ai découvert à mes frais aussi, en septembre que moi j'ai un nouveau spectacle qui s'appelait Traqueur de nazis. Et je voyais pas où était le problème. J'avais l'impression d'être du bon côté.
Un spectacle, on va préciser, qui est inspiré par l'histoire vraie des époux Klarsfeld, sont allés vraiment traquer des nazis au péril de leur vie, mais qui ont permis le procès de Barbie, etc. Et vous l'avez réinterprété.
C'est un point de départ, mais spectacle.
Ça n'a rien à voir.
En fait, on commence en disant qu'eux doivent arrêter parce qu'il fallait qu'ils s'occupent de leur enfant gogol. Arnaud Klarsfeld et ils se mettent à traquer les nazis, mais c'est deux idiots qui essaient de s'attaquer à une tâche qui est trop compliquée pour eux. Mais je voyais pas où était le problème. C'était un spectacle vraiment humoristique et affiche arrachée, menace et vraiment un mur d'incompréhension, de bêtises, je trouvais vraiment. Et l'intelligence artificielle aussi qui a bloqué le compte de l'attaché de presse parce qu'il postait la promo pour le spectacle.
L'intelligence artificielle.
Que le mot nazi, mais il y a une phrase, ou une expression autour.
Tu le jouais en Argentine?
gros succès là-bas. non, et puis même quand. On a essayé, l'attaché de presse a essayé de faire venir des programmateurs ou des journalistes. C'est un mec qui nous a fait « Ah non, moi, je peux pas venir. Non, non, non.
» Parce qu'il était nazi.
Non, il dit « Parce que moi, je suis homosexuel. » Mais alors, les nazis faisaient du mal aux homosexuels. Ouais, mais tu comprends bien que nous, on n'est pas nazis. Enfin, non, voilà. Donc, je crois qu'on se met à éplucher s'empêcher de réfléchir autour de... C'est ce qui s'est passé pour Guillaume. Il n'y a pas de polémique pour moi. Il n'y a rien de choquant. C'est une blague. On lui demande de faire une blague sur la radio. Il en a fait une qui, je trouvais plutôt marrante, qui pique un petit peu, mais...
Pour une fois qu'il fait une blague, en plus.
En plus, il était tellement fier.
Non, il était fier. Tu le voyais à la fin de l'émission. Fier, fier, fier.
Ah, mais il n'en pouvait plus, quoi. Il a appelé ses parents pour leur raconter.
Ouais.
C'est eux qui lui ont dénoncé.
On embrasse Adolphe et Roberta, ses deux parents.
Mais c'est vrai que, pour revenir à l'humour noir, Hugo Bardin, avec ton spectacle Paloma, tu y vas. L'humour, ça doit faire grincer des dents aussi. C'est pas seulement là pour faire rigoler.
Ouais, je crois que toute réaction est bonne. Enfin, même si ça fait pas rire, mais qu'il y a un... Déjà, j'adore. Enfin, tu vois, il y a un moment dans le spectacle où je fais je joue un personnage de directrice de casting qui est un petit peu trash, un peu old school. Et à un moment, c'est le bordel sur scène.
Elle est pas très sympa, hein.
Ouais, non, mais elle est assez atroce. Mais rien ne va. Tout ce qu'elle dit est problématique. Je veux dire, elle se moque de tout le monde, des handicapés, de tout le monde. Et à un moment, il y a le bordel sur scène et elle engueule son assistante. Elle dit, on n'est pas au Bataclan. Et à chaque fois dans la salle, j'ai. Et deux secondes après, les gens rient, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a des trucs aussi où on se dit, oh mon Dieu, on peut pas rire de ça. Et en fait, ça aussi, ça fait du bien parfois de se dire, ah, en fait, si, je peux rire de ça. Voilà. Mais ça se trouve, je fais un bide avec ce truc, hein. Je sais pas.
Ouais.
Peut-être à cause du prix, Aymeric, ouais,
c'est à cause du prix. Mais surtout, il joue au Bataclan, quoi. C'est ça qui est gênant.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Mais est-ce que justement l'espace du spectacle ne protège pas plus, enfin, c'est ce que je me disais moi au départ, qu'en faisant effectivement une chronique à la radio ou des chroniques à la télévision, on s'exposait plus à un public qui n'était peut-être pas d'accord avec nous et donc qui pouvait répliquer de manière un peu violente. Est-ce qu'avoir un spectacle, c'est quelque part avoir son public choisi et pouvoir se préserver dans une certaine mesure de menaces?
Aymeric Le Pen. Non, vas-y. Non, je sais, bah oui, non, mais c'est vrai. Sur scène, les gens ont décidé de venir te voir.
Alors souvent, ils savent ce qu'ils viennent voir, ouais, souvent.
Ouais. Tu peux pas me couper.
Pardon, je sais pas ce qui m'a pris.
C'est pas grave.
Je suis d'accord avec Aymeric.
Alors, moi, non. Vraiment pas.
Bah, je finirai pas.
Ah, pardon.
Ah, je rigole. J'avais fini.
Il te sauve la vie, là. Il te sauve la vie.
Non. Moi, ça commence à changer. Je crois que les gens commencent à comprendre. Mais au début, mon public, c'était des gens qui avaient regardé Drag Race. Donc, ils se sont dit, super, on va avoir des paillettes, des plumes dans le cul et compagnie. Et en fait, non. Donc,
et tout ça au Bataclan, hein, donc.
Et au départ, dans la tête de mon public, je suis censé être la papesse du woke et des queers, quoi. Donc, ils viennent en se disant, on va être dans un safe space, ça va être que des trucs très politiques sur les queers, la commune et tout. Et en fait, je joue que des personnages qui sont très problématiques. Donc, ça a laissé aussi beaucoup de gens très perplexes. Et en même temps, j'étais là, bah oui, mais à la base, mon métier, c'est pas d'être homosexuel, hein. C'est d'être auteur et metteur en scène. Donc, a priori, je vais pas faire que jouer des rôles hyper woke. Au contraire, même, je trouve que c'est le meilleur moyen de surprendre les gens et d'attirer et de, comment dire, de faire changer d'avis un public qui n'est pas acquis en glissant des trucs comme ça en loose day. Parce que moi, au fur et à mesure, mon public s'est élargi et je me retrouve avec des vieux, quelle horreur. Des personnes âgées qui sont juste dans leur ville, quelque part en France, et qui ont vu, oh, Paloma, super, on va aller voir ça. Et en fait, ils savent pas que je suis drag queen, ils arrivent, ils voient une drag queen, et après, je fais des blagues hyper trash. Et en fait, quelque part, je séduis un autre public, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais.
Aymeric, dans ton spectacle YOLO, dans ton spectacle YOLO, tu racontes la vie d'un SDF qui a perdu son chien, ce qui te permet de parler de plein de sujets. On sait aussi par ailleurs que tu es ambassadeur de la Fondation Abbé Pierre. Quand avec je sais pas qui a eu l'idée du SDF, qu'est-ce que ça te permet de faire, d'avoir ce personnage de SDF dans ce spectacle?
Bah comme tu disais quoi, c'était en plus c'est un SDF, il est un peu misogyne, un peu grossophobe vite fait.
C'est-à-dire.
Il est pas très loin de moi. Non. Mais du coup, ça me permet de pouvoir dire des trucs. Non, mais il est plus céleste qu'un connard. Mais ça me permet de pouvoir dire des trucs à travers un personnage. Et du coup, moi, je suis vraiment inattaquable sur parce qu'on peut pas en vouloir un sans-abri de dire de la merde, quoi. Enfin, on peut lui en vouloir. Non, mais si on peut lui en vouloir. Non. C'est pas un sans-abri qui est raciste, je dirais, bon, bah, tant pis pour lui, mais je sais pas comment ça rentrer en discussion avec lui sur le racisme, il y a déjà d'autres problèmes, je trouve. Mais restez, attends.
Là, il est un peu, ouais. On s'endort un peu, mais vous allez voir, il va mettre du peps, là.
Ouais, je vais bien mettre du peps. J'ai bien répondu?
Je sais pas, c'est toi qui, c'est ta réponse.
J'ai oublié la question.
Non, mais c'est aussi une base arrière pour pouvoir dire des choses, parce qu'au-delà de la blague et des blagues racistes ou voilà, des propos grossophobes, etc., tu dis des choses et vous dites des choses qui prennent position aussi, qui parlent justement de la détresse des gens qui sont sans abri, etc.
Bah ça c'est la première version, c'est quand tu commences à écrire le spectacle, ouais, tu penses à ça, mais maintenant moi je pense plus trop à ça parce que je pense plus à faire rire les gens. Mais c'est vrai que la première mouture du spectacle, c'est ça, c'est au début il y a zéro blague et c'est qu'est-ce qu'on veut dire sur le sans-abrisme et sur pourquoi ils en sont arrivés là et pourquoi à cause de quelle politique. Macron. fallait bien que j'en parle au bout d'un moment.
Voilà, ça va être censuré. Merci.
Et mais au début, moi, j'ai écrit que sans blague, et après, on a ajouté des blagues, mais au début, on a voulu s'intéresser au fond, au propos.
Je parle de personnage, j'ai envie de m'adresser aussi à Corinne, qui.
Moi, je suis pas drôle du tout.
Quoique, quand même. c'est vrai que tu as. Corinne, c'est avant tout un personnage avec ses deux albums. Et puis, on rentre parce qu'on est attiré par le personnage, par l'image que tu projettes. Et puis, on découvre des chansons, on s'amuse, on danse, etc. Qu'est-ce que te permet le personnage de Corinne à accomplir, même si toi, tu n'es pas du tout humoriste?
Oui, et puis après, à l'inverse de ce que tu disais, par exemple, Hugo, moi, je me sens très... Je me sens très en lien en fait avec Corinne. C'est vraiment moi. Je me sens très authentique là-dedans. C'est pas parce que je mets une perruque que je me transforme, etc. Et c'est ce que j'ai toujours répondu aux médias, parce qu'en France on nous met très vite dans des cases et quoi. On est tous admiratifs des artistes, tu vois, comme Lady Gaga, Dolly Parton, etc. Puis là, moi, je suis avec ma perruque et tous les médias ils me parlaient que de mes cheveux. Et j'étais là, mais c'est incroyable parce que oui, ok, j'ai mis des cheveux, mais après il y a quand même de la musique derrière. Je raconte quelque chose, etc. Et donc la transformation, moi, c'était parce que je ne me voyais pas aborder la scène sans un aspect spectaculaire. Je voulais vraiment offrir du spectacle. Et donc, quand j'ai commencé à écrire mes chansons, très vite, ce personnage est né. En effet, il m'offre aussi une liberté. Mais à la fois c'est la continuité de ce que je suis tout aussi folle dans ma vie privée. Maintenant, ça m'intéresse pas de me montrer au pied du lit, c'est-à-dire que j'ai toujours dit ça, me montrer quand je me réveille le matin, moi ça me fait pas rêver, je vois pas pourquoi ça ferait rêver les autres, tu vois. Donc il y avait vraiment ce truc, je veux créer un personnage pour faire, enfin moi, me faire rêver, pour m'emmener dans une histoire et donc emmener les autres. Donc voilà, tu vois. Donc oui, il y a un personnage. À la fois, je suis la même en fait quand j'ai mes cheveux ou quand je suis sur scène et tout ça. Sauf que après, voilà, je peux briller, je peux avoir des attitudes différentes, mais voilà, c'est encore autre chose.
Et justement, Paloma, enfin Hugo en Paloma et Corinne, Corinne, toi, tu as quand même cette espèce de personnage à la féminité très exacerbée qui a pu aussi dire être une, prendre la scène en féministe presque, et Paloma au contraire, enfin Hugo en Paloma, quand tu dis que tu fais du drag, tu dis que tu ne te mets pas en femme, et voilà, que c'est pas, quel est ce, il y a quand même dans les deux cas un questionnement un peu sur ce que c'est les attributs de genre, les attributs de la féminité. Est-ce que ça a été une réflexion dans la construction de ces personnages pour vous? Tu veux commencer?
Non, alors moi, une fois de plus, c'est vraiment la continuité de mon chemin de petite fille, adolescente, jeune fille, jeune femme, femme. Et c'est vraiment arrivé, j'ai commencé à écrire et à créer ce personnage après avoir vécu plein de choses, beaucoup de galères aussi. Et donc c'est un peu après avoir traversé plein d'histoires dans ma vie et plein d'expériences en studio avec des producteurs, des choses. Il y a eu un moment, j'ai eu ce sentiment d'avoir envie de reprendre le pouvoir avec la femme que j'étais, avec mes formes, avec tout ça, et de me dire, mais pourquoi en fait quand on est une femme et qu'on monte ses formes, on est forcément une pute, pourquoi on peut le montrer avec humour? C'est vrai que moi, l'humour, c'est vraiment une arme pour moi dans la vie et dans la musique. J'avais envie d'un projet comme ça où je joue avec les codes de la féminité, de la sexualité, de la sensualité. Donc dans pourquoi quand je me balance du chocolat partout, oui, c'est la connotation avec les films de cul, etc. Mais en fait, ça raconte autre chose sur l'empouvoirment, sur je peux être une femme, assumer mes formes et jouer l'ingénu. En fait, derrière, c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Mais pareil sur le féminisme, oui, je suis une femme, je suis féministe. Tu vois, mais je me sens pas non plus, je suis pas là pour enlever, etc. Pour moi, c'est très naturel de porter ma voix et celle des autres. Enfin voilà.
Et toi, Hugo, en Paloma, qu'est-ce qu'elle incarne, Paloma, par rapport à ces questions-là? Questionner la féminité en partie.
C'est compliqué parce que d'un côté, il y a Paloma qui est mon personnage public avec lequel je prends la parole et avec lequel je performe en général. Mais quand je suis sur scène pour jouer, je ne suis pas en Paloma. Dans mon spectacle, je joue tout sauf Paloma. Donc, je joue des femmes qui n'ont rien à voir avec elle. Mais disons que déjà, je ne me genre pas au féminin quand je suis en drag. J'estime que ça se mérite d'être genré au féminin et je ne le mérite pas, d'une certaine manière. Je joue avec des codes qui sont féminins, mais je ne considère pas que mon personnage est féminin. C'est un peu particulier pour moi. Le drag, c'est du clown. Simplement, j'ai choisi des codes qui sont féminins. En tout cas, je me moque de ces codes sociaux qui sont dits féminins. J'estime que c'est quand même un personnage conscient et que de jouer avec des codes féminins m'oblige à avoir du respect pour les femmes et une réflexion féministe. Donc, de fait, quand j'écris un spectacle, ma première, et c'est un peu l'inverse de toi, mon premier truc que je me dis, c'est... c'est pas exactement ce que je veux dire, mais attention, je vais pas te contredire, mais le premier truc que je me dis, c'est qui je ne veux pas, a priori, qui je ne veux pas attaquer et de qui je ne veux pas me moquer. Je veux pas me moquer des homos, ça a déjà été fait. Je veux pas me moquer des femmes, c'est déjà trop fait. Je veux pas me moquer des étrangers et je veux pas me moquer des personnes qui sont minoritaires et qui, a priori, ont déjà suffisamment subi l'humour des hétéros depuis toujours et du patriarcat. Donc, dans mon spectacle, je m'attaque à tout le reste, à savoir le patriarcat. Mais je suis confronté à des personnages qui, parfois, sont border. Et j'ai des personnages qui sont l'inverse de ce que je viens de décrire. Mais du coup, je m'en sers pour dénoncer ça aussi. Les personnages qui sont misogynes, qui sont racistes, ben, en fait, il faut parler d'eux aussi parce que c'est en les montrant que, ben, on les ridiculise. Et je suis pas du tout en train de répondre à ta question. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'écris, moi, je fais l'inverse, c'est-à-dire que j'écris toutes les blagues qui me passent par la tête, et c'est après, je me dis, en fait, est-ce que celle-là, je suis vraiment en train de la faire dire à mon personnage, ou est-ce que c'est un peu moi qui me fais plaisir ? Bah, du coup, si elle est juste là pour me faire plaisir ou pour provoquer un rire qui est gratuit, bah, je l'enlève, en fait. Donc, je fais la démarche inverse, et tous les soirs, j'enlève une blague. Voilà. Ah. Du coup, c'est plus du tout drôle, maintenant.
Émeric Lomprêt, tu le dis ça aussi, ce que vient de dire Hugo, c'est-à-dire tu dis que tu es de plus en plus attentif à ne blesser personne, ne blesser aucune minorité, que c'est quelque chose, c'est un exercice qui est devenu très conscient et très quotidien pour toi.
Ouais, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Hugo. Vaut mieux s'attaquer aux puissants que ceux qui sont faibles, quoi.
Il y a la fameuse différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche.
C'est les puissants, c'est l'extrême droite. non, mais je suis assez d'accord. Après, je sais pas, s'attaquer au patriarcat, est-ce qu'ils sont pas minoritaires maintenant, le patriarcat? Je rigole. non, mais je suis assez d'accord. Non, mais je vais pas rajouter parce que je suis assez d'accord à ce que tu dis. Donc, peut-être Oldenham si tu veux, je sais pas, toi qui es gros.
Ouais, bah, moi-même représentant une minorité des gros chauves, bah écoute, je
t'ai bien lancé,
j'avais hâte justement de pouvoir s'attaquer à ce sujet. Non, moi j'ai tendance à, j'ai pas l'impression de m'y attaquer moi dans la vie de tous les jours. En revanche, quand on m'interdit quelque chose et dire il faut pas le faire, ça a tendance à m'agacer et j'ai pas envie de m'interdire. De base, j'écris tout et ensuite c'est plus une histoire de est-ce que je l'assume ou pas. En tout cas, je veux être la personne qui choisit justement. Est-ce que je veux pas qu'on me dise si ou si ou ça et si ça correspond à le niveau d'horreur du personnage que tu veux imprimer. J'ai pas de problème moi avec ça. Maintenant, ce qui m'embête, c'est quand à l'écriture, naturellement, tu te mets à rayer des choses et le faire naturellement. Et qui est vraiment dans le sujet pour le coup de qu'on traite. Moi, j'ai été confronté sur un gala de Montreux, tu vois, une copine à nous. Où le metteur en scène, les gens de Montreux sont venus la briefer en disant tu ne parles pas, moi je peux le nommer, tu ne parles pas de Bolloré, tu n'as pas le droit de parler de Bolloré. Et sous prétexte que c'est une chaîne de machin, elle m'a dit mais je n'ai pas prévu de parler de Bolloré, mais c'est-à-dire que vous m'interdisez d'un truc que je ne fais pas. Et en fait, il y a des choses qui sont interdites. Tu ne peux pas à Montreux faire des blagues sur des prêtres parce que Bolloré l'interdit. Et tu te retrouves sur un. Ce qui représente quand même beaucoup, tu vois, l'humour, hein, passer au gala de Montreux, c'est quand même un truc qui peut être important. Ça peut faire démarrer des carrières, ou ça peut en arrêter, comme ça le d'Emeric, son dernier passage. Mais
moi, je me suis refait depuis.
non, c'est quelque chose d'important. Et qu'on te dise, il y a plein de sujets que tu n'abordes pas. Que le sketch soit pas drôle, que ce soit mal fait, ça, c'est autre chose. Mais que ce soit interdit, ça me pose problème. Ouais.
On vous interdit rien, Aymeric Lompré à France Inter?
J'imagine
de manière frontale, non? Toi.
Non, maintenant, depuis l'affaire Meurice, il y a eu un des non-dits qui sont passés sur éviter d'attaquer un peu l'institution dans laquelle on se trouve. Genre éviter de faire des blagues sur Sophia Aram, Adèle Van Rett, machin. Mais c'est vraiment très tentant de faire des blagues sur Sophia Aram. Non, il y a ça un peu qui a circulé, mais non, dans l'émission, non, on nous interdit rien du tout. Et de toute façon, on s'auto-censure. Avec Pierre-Emmanuel Barré, on s'auto-censure. Nous, notre seul objectif, c'est de faire rire. Et on essaie d'attaquer, une fois de plus, les puissants, quoi. Ceux qui sont au pouvoir. Pas les minorités, quoi. On essaye.
Fakir, à moins que tu aies une révélation à nous faire ce soir, mais a priori, t'es pas humoriste du tout.
Ouais, même dans la vie.
Hyper sérieux, moi.
Hyper sérieux. Déjà, est-ce que t'es un consommateur, toi, de spectacle, d'humour, de sketch, comme peut les proposer Hugo avec Paloma au pluriel, ou de plus vibe stand-up? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse et...
Bah, pas tant que ça. Je pense que c'est un délire de sensibilité. Je suis pas très consommateur de stand-up, mais par contre, de par mon éducation, par mes parents, etc., j'ai été biberonné vraiment à France Inter, et du coup, c'est quelque chose que j'ai continué de faire perdurer chez moi, pour moi. Et maintenant, j'écoute France Inter à part uniquement le dimanche. Et voilà, l'émission de Charline. Et voilà, je suis très, très, très fidèle pour le coup. Et j'attends le lundi matin et une période joyeuse parce qu'il y a les replays sur YouTube qui arrivent au compte-goutte au cours de la journée d'Emeric, de Mao, etc. Je suis très content. Et pour le coup, en fait, j'ai un peu l'impression que depuis tout à l'heure, on parle tous un petit peu de l'importance de la satire et de à quel point, en fait, c'est quelque chose d'essentiel dans la société comme soupape. Et moi, je pense que c'est hyper, hyper sain et hyper important qu'on ait encore le droit d'être dans la satire. Donc effectivement, se moquer des puissants, on peut se moquer un petit peu de tout. Le problème, je pense, auquel on est confronté et auquel a été confronté, je pense, Guillaume Meurice à fond, c'est que la censure est arrivée d'un point de vue dogmatique. Et c'est ça qui m'a, c'est le truc que j'ai vraiment retenu, c'est que en fait, quand la censure est détenue par un pouvoir dogmatique, donc en l'occurrence, que ça peut être que ce soit Bolloré ou que ce soit l'extrême droite qui commence à avoir la main mise un peu sur le truc, c'est là que ça devient hyper dangereux pour la société, quoi. Et du coup, tout ce qui est de l'ordre de la... Enfin, pour moi, tous les spectacles humoristiques qui sont de l'ordre de la satire, ils sont hyper sains et nécessaires à la société. Nécessaires à ce que nous, on puisse souffler, comme tu disais, enfin, pouvoir rire de sujets qui sont mentionner le Bataclan dans un spectacle, j'en sais rien, voir ces réactions-là, en fait, c'est des choses qui sont importantes. On a besoin de ces soupapes-là, on a besoin de pouvoir d'un coup rire. Pour moi, ça, c'est le rôle des humoristes dans la société, c'est un rôle qui est plus qu'essentiel, quoi.
Un peu, enfin, certains disent que le rire critique peut être une forme de participation politique quand la démocratie aujourd'hui
carrément
peut être réduite à peu de participation.
À fond.
Et toi aussi, tu peux essayer dans ton travail aussi de susciter la participation politique ou l'engagement politique. Je crois que tu t'es beaucoup engagé sur les questions écologiques, avec donc une réflexion sur comment verdir un peu ton métier. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, bah c'est... Disons que l'industrie musicale, c'est une industrie qui est très polluante, et en l'occurrence, peut-être l'axe qui est le plus polluant, le plus compliqué à gérer, c'est celui de la tournée, c'est celui du déplacement, que ce soit l'artiste qui se déplace ou les gens qui se déplacent pour venir voir l'artiste. Il y a une espèce de paradoxe là-dedans d'ailleurs qui est assez intéressant, de à quel point c'est le rôle de l'artiste de limiter ses déplacements, sachant que c'est peut-être lui qui pollue le moins. Donc, est-ce que ce serait pas justement trouver des solutions alternatives pour que les publics se déplacent, venant en concert, etc. Je vois, il y a pas mal d'artistes qui ont mis des choses comme ça en place, type Pomme, qui met en place des plateformes de covoiturage pour venir au concert, etc. Il y a des alternatives comme ça. Est-ce que finalement, le rôle de l'artiste, ce serait pas de se déplacer davantage pour aller davantage à la rencontre de petites communautés ou de régions, de choses qui sont d'endroits qui sont plus isolés, plutôt que de faire un seul concert et de dire voilà, je suis écolo, j'ai fait un seul concert à Paris, mais du coup il y a toute la France qui se déplace pour aller le voir. Il y a pas mal de choses comme ça à réfléchir, et moi la tournée, c'est un truc que j'ai commencé un peu à penser. Par exemple, en tant que DJ, ça arrive quand même fréquemment qu'on me propose d'aller jouer à l'autre bout de la terre et tout, donc c'est un truc que je commence à vraiment filtrer les demandes en fonction de à quel point c'est accessible ou à quel point j'ai un nombre donné de dates dans cet endroit là par exemple. Maintenant, si je vais jouer en Europe ou à Porte-Étrin, j'y vais en train. Il faut vraiment que ce soit à l'extrême, enfin, qu'il n'y ait pas le choix d'y aller en avion, et à ce moment-là, on s'y résout. Et à terme, je pense que le bout de la réflexion, c'est d'arrêter totalement de se déplacer en avion, quoi. Moi, c'est un truc que j'ai commencé à mettre en place dans ma tournée et mettre en place pratiquement dans ma profession. Après, en termes de sensibilisation du public, c'est pas un truc que je vais aller clamer à tous mes concerts, sachant que je ne chante pas, je ne parle pas entre mes morceaux, donc c'est pas un truc où je vais dire bah voilà, je suis venu là en train, super, c'est super, tout le monde s'en fiche. Il y a vraiment un truc où j'essaye d'amener les gens à se projeter dans la nature via ma musique. Ça, c'est un exercice qui est un peu compliqué. Moi, c'est un exercice c'est une expérience que j'ai vécue à travers les films de Miyazaki quand j'étais gamin, parce que Miyazaki, il arrive à te faire comprendre que la nature, c'est important. Juste en te montrant un film, tu vois, tu finis Princesse Mononoké, t'as compris que la nature, c'est important. Il y a un truc émotionnel qui se passe. Et moi, j'ai envie de rester sur ce terrain-là et de juste via les harmonies, juste via les sons que j'utilise et la manière que j'ai de raconter un album ou un morceau, etc., d'amener les gens à se projeter dans un environnement naturel et de se dire, OK, c'est cool, c'est important parce que je m'y sens bien, quoi.
Corinne, sur les questions qu'évoque Fakir sur la tournée, etc., quand on fait l'infin qui peut s'appliquer à vous tous autour de cette table, est-ce que c'est des questionnements aussi sur lesquels tu es allé, toi?
Ouais, moi c'est la première question que j'ai posée à mon tourneur quand j'ai commencé avec eux là sur la nouvelle tournée, c'était de réfléchir à ça, en effet, parce que c'est vrai que c'est assez délirant, quoi, de voir. Alors pareil, c'est des toutes petites actions, mais d'arrêter d'avoir des bouteilles en plastique, parce qu'il y en avait quand même énormément aussi dans les salles avant, donc d'avoir des gourdes pour tous les musiciens, pour tout le monde, mettre en place tout ça. Et puis pareil, moi c'est le train, je prends plus l'avion, sauf bah pareil sur des dates vraiment très loin, mais où à ce moment-là bah j'essaye de dire oui, si je vais jouer en Australie, j'aimerais bien avoir des radios, des promos et faire plusieurs dates et pas en faire qu'une, ce qui a été le cas sur ma dernière tournée. Je me suis retrouvée en Australie, j'ai fait 2 dates en 10 jours et je me suis dit, bah c'est un peu fou en fait de faire 25 heures de vol pour enfin c'est génial, hein, j'ai passé des super vacances et tout, et c'est un métier extraordinaire, c'est une chance inouïe, mais c'est vrai que quand tu prends conscience un peu après de ce que ça représente d'un point de vue écologique et tout, tu dis c'est un peu voilà. Mais après bah c'est génial, j'adore entendre Fakir parler de ça, et je me dis qu'il faudrait qu'on crée des moments ensemble entre artistes et tourneurs et nos partenaires et tout, pour essayer de réfléchir ensemble à ça, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de tourneurs qui pensent à ça aussi. Enfin Zaz avait lancé aussi le truc il y a longtemps, ça commence à questionner, mais l'industrie elle est quand même bien c'est comme le patriarcat, quoi, c'est bien ancré quand même, hein. On n'est pas encore sur une prise de conscience générale, tu sens sur l'écologie, ouais, quand je me déplace même sur les festivals et tout, tu sens que ça va être long, quoi. Donc c'est vrai que trop bien, voyons-nous.
Pour revenir à la question de l'humour, il y a quelque chose qui a changé, qui a pris une importance particulière aussi, c'est les réseaux sociaux et le fait qu'une polémique parte tellement vite, c'est un peu le cas de ce qui est arrivé avec Guillaume Meurice aussi, c'est-à-dire qu'à un moment tout le monde avait son avis et tout le monde le donnait dans les commentaires. T'as quel rapport toi aux réseaux sociaux, Aymeric Lomprey?
J'ai pas compris la question trop, mais en fait j'ai envie d'avoir une
comment tu gères tes réseaux sociaux? Est-ce que tu lis les commentaires? Est-ce que tu réagis? Est-ce que tu réponds? Est-ce que t'es accro aux réactions?
Non, je lis jamais les commentaires, mais par contre je m'en sers beaucoup, ouais, pour partager mes chroniques. Et
c'est une source d'inspiration, ce que tu peux trouver sur les réseaux sociaux?
Ah, genre quand tu vas voir les autres contenus? Non, je vais pas voir les autres, moi. non, mais j'essaie d'aller voir les trucs qualitatifs. Avant, j'aimais bien un petit peu aller voir les trucs nuls, mais je pense que c'est faut pas trop faire ça. Donc, je vais voir que les trucs qualitatifs, ouais. Donc, ça inspire... Putain, à chaque fois, j'ai des questions dures aussi, moi. C'est chiant. Non, ici, il y a les extraits de Mario Premier Regard qui sont vraiment super. Non, je m'inspire pas des réseaux. Non, je vais pas me moquer des gens sur les réseaux. Je trouve que c'est déjà assez pénible d'en croiser dans la rue. Donc, aller voir les fachos sur les réseaux ou même des gens qui galèrent financièrement, non, c'est pas ouf. Je peux avoir une bière.
Old Olaf, toi, les réseaux sociaux, c'est...
Tu vois ce que c'est, les réseaux sociaux, Old Olaf?
J'ai lu des livres sur les réseaux sociaux.
Tu en parles.
Toc, toc. Là.
Ça m'intéresse. C'est fou ce qui est en train de se passer avec ces réseaux. Les réseaux sociaux, moi, je trouve que c'est quelque chose de dangereux. Parce que, en fait, à partir du moment où c'est plus un média volontaire, au sens... je me rappelle quand... parce que figurez-vous que j'ai vu l'arrivée d'Internet.
J'osais pas le dire.
Il n'y a pas cru au début.
Moi, j'ai dit, ça ne marchera jamais. Envoyons-nous des lettres. Ça, c'est sublime. Et donc, en tout cas, je trouvais que c'était merveilleux parce qu'on pouvait vraiment se renseigner sur plein de sujets qui nous motivaient. Et voilà, aujourd'hui, dans les réseaux, il suffit que par voyeurisme, un petit peu par facilité, on clique sur quelque chose et on se fait atomiser. Donc heureusement que tu dis, je vais pas voir les trucs qui me plaisent pas, parce que tu te retrouves avec un flot d'informations déprimantes. Donc
oui, avec les algorithmes qui te ramènent de plus en plus.
Exactement.
De merde.
Et donc moi, j'avoue que je me méfie un petit peu. Du reste, pour te dire, c'est que il faut s'en servir, mais j'ai du mal à y aller moi-même. Donc je laisse des gens s'occuper de ça pour moi. C'est pour te dire la tristesse du gars. Parce que c'est pas quelque chose qui me... C'est pas quelque chose qui m'excite.
Moi aussi, je fais ça maintenant. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'occupe de mes réseaux. Ouais. Je poste plus moi-même, et trucs comme ça.
C'est Guillaume Meurice.
C'est Guillaume Meurice, ouais. Oui. Oui, son montage avec Netanyahou, c'était pas ouf.
Mais donc...
Mais dans ton parcours, puisque tu as vu l'arrivée d'Internet, est-ce que...
les Allemands aussi, tu les as vus arriver, les Allemands.
C'était dingue. C'était dingue. On flippait. Ils étaient là. Dans Paris, c'était horrible. Ah
ouais. Ça circulait mal.
Oh là là. Ah, on se plaignait avec...
Est-ce que tu vois une différence, justement, dans la réception de... Voilà, quand tu... balancer les chansons qu'on connaît tous et toutes d'Old Olaf, Tristitude et Nathalie, tout ça, mon amour de BMJ, grand favori pour moi. Est-ce que tu vois la différence de la réception de ton travail, justement, à cause ou en raison des réseaux sociaux?
Alors oui, parce que moi, je pense que j'ai pas su saisir au bon moment. J'ai pas traduit les succès par des abonnements, le fait de cliquer, d'essayer de créer une communauté. Je pensais que naturellement, on s'intéressait à la chanson. J'ai pas essayé de fidéliser les gens. Et moi, je pense que j'ai raté un petit truc avec ça, parce que au moment où le café, notamment, est arrivé. Alors.
Le café est arrivé aussi.
C'était dingue. C'était dingue. Mais j'ai vécu beaucoup de choses, vous savez, les amis.
Oui, la route des épices.
C'est dingue. On était avec Napoléon sur un bateau et on partait de l'autre côté de la mer qui ne s'appelait pas encore l'Atlantique, du reste. Non, je parlais de ma chanson, le café, de manière très, très égocentrique. Mais espèce de merde, je vais être obligé de t'étrangler devant tous tes amis.
Pardon.
Non, en fait, en vrai, c'est horrible. C'est vrai que là, je passe d'une génération terrible. Non, la chanson, le café, elle date de 2006, donc c'est pas si vieux que ça. Il y a bientôt 20 ans. Oh mon Dieu. Mais en tout cas, il y a eu un très, très gros buzz. Vraiment, il n'y avait pas de YouTubeur, il n'y avait pas Facebook à l'époque. Pour en parler, j'étais invité sur TF1, M6, vraiment pour parler qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce buzz, pardon, parce que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Et en fait, j'ai pas traduit ça par des demandes d'abonnement. J'ai pas senti le intéressant de fédérer. Pour moi, c'était important de répondre en concert, de jouer, de faire parler de la chanson, mais pas ça. Et du coup, aujourd'hui, je pense que c'est compliqué pour moi de rentrer, parce que tu vois, je suis pas passionné par les réseaux. J'ai pas envie de faire un truc jetable comme ça, rapide. J'ai envie de construire, j'ai envie de faire un... Si je fais un petit film, faut que ce soit un peu joli, que ce soit un peu écrit, qu'un scénario. Et c'est pas le même rapport que je pense qu'ont les jeunes aujourd'hui. Il y a quelque chose de très... On a envie de savoir où tu es, ce que tu fais, avec qui tu es, ce que tu manges, que machin. Ça ne m'intéresse pas, moi, ni chez les autres, ni chez moi. Enfin, je veux dire... alors que c'est moi, ce que je mange, il y a beaucoup à dire. Mais en tout cas, voilà. Et c'est pour ça que je suis pas assez... Quand on en parlait aussi tout à l'heure, se dire, on aimerait bien avoir retrouvé un rapport créatif à Internet, se servir de ça, mais je pense qu'on n'a pas les bons réflexes. On pense déjà trop vieux et Aymeric un peu moins, mais moi, ouais, j'ai envie de mettre un petit chapeau et une canne et faire des trucs, des chorégraphies.
La question s'est posée pour toi, donc sur ton dernier album Air Corinne qui est sorti il y a quelques mois, si je crois bien, ouais, c'est ça. Il y a eu une réflexion sur comment avoir voilà, une portée via les réseaux, faire connaître, ou c'est pas des questions qui se posent pour toi?
Ah si, je peux pas, ouais, non, ce serait mentir de dire que non, parce qu'en musique aujourd'hui, ça fait partie de notre moyen de communication, qui peut être aussi un moyen, enfin un média en fait, enfin quelque chose qui est où on a une grande liberté, parce que c'est nous qui dirigeons notre propre média, donc à la fois ça peut être assez excitant, mais moi pareil, j'ai un gros problème avec le téléphone tout court. Déjà dans ma vie, je déteste le téléphone, je réponds rarement, donc j'ai changé de vie aussi, je suis partie vivre à la campagne, donc moi je suis avec mes sabots le dimanche machin, donc il y avait un truc, il y a le côté dans mon album je suis là tu vois un peu diva avec mes paillettes et tout ça, et puis après il y a ma vie à côté, et donc c'était plus d'un coup de vraiment, sur le deuxième album j'ai plus ressenti ce paradoxe, cette dualité que j'ai et que j'assume, mais après ça je pense qu'on est plein, on est tous plusieurs à l'intérieur, tu vois. Donc moi il y avait ce truc là de dire comment je fais le lien vraiment, et de pas, moi je voulais pas tomber non plus dans le truc où je raconte ma vie, ou enfin je suis pas déjà c'est pas ma génération non plus, je suis pas née avec un téléphone dans la main comme des artistes aujourd'hui qui sont très jeunes, qui sont très forts là-dedans, pour qui c'est totalement naturel, moi ça l'est pas. Et puis une fois de plus, je suis pas une artiste réaliste, j'ai pas envie de j'ai pas envie de me montrer j'allais dire au naturel, mais c'est pas vraiment ça, mais tu vois, il y a plein de choses que j'ai pas envie de raconter. Mais après du coup, par contre, non, dans la création artistique, dans la création de ma cover, tout ce qui est l'image, etc., je réfléchis pas du tout au réseau. C'est avant tout un langage artistique, c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et après, bah, tu t'amuses un peu avec ton label, avec les gens qui t'accompagnent, à dire tiens, comment je vais raconter cette histoire-là aussi sur les réseaux, tu vois.
Même dans le cadre de créer, j'imagine, il n'y a pas l'idée de se dire ah, ça, cet extrait pourra servir pour faire le buzz.
Non, je l'ai eu un tout petit moment, et puis ça s'est vite arrêté. Je suis partie justement vivre à la campagne pour me libérer un peu de ça, parce qu'à Paris, j'étais un peu oppressée par ce truc, en effet, où on est très là-dedans, dans la communication, dans combien t'as de following, et dès que tu croises des gens, quand même, ça parle beaucoup de ça, et enfin voilà, il y a un truc un peu oppressant, et quand je suis partie à la campagne, tout s'est libéré, j'ai arrêté de réfléchir à ça, et puis j'ai surtout fait ce que j'avais envie de faire, quoi. Voilà.
Hugo Bardin, Paloma, il y a eu un nouveau clash il n'y a pas longtemps là, sur le plateau de Mediapart entre Mao et... Ah non, bah, si vous voulez, mais j'y étais pas. Entre Mao et notamment la députée et la ministre Aurore Berger. Et un truc qui, pareil comme Guillaume Meurice, est parti très loin, très fort, très vite, avec des menaces de mort, etc. Je ne sais pas si nous tous et toutes autour de cette table, on peut... essayer d'imaginer comment répondre à ça, comment répondre à cette absurdité qui fait que tu t'es dit que t'aimes pas une chanson de Sardou et tu es menacé, vilipendé, etc. Malgré tout, c'est l'époque dans laquelle on est. Est-ce qu'on peut pas tenter déjà de débaucher, d'essayer de réfléchir à cette situation qu'on vit, et surtout vous les artistes?
Bah moi, ça m'est arrivé pas mal quand j'étais sur Quotidien. Hein. C'était toutes les semaines des menaces de mort, donc je vois très bien de quoi tu parles. Après, je trouve ça très compliqué de répondre à cette question, parce que a priori, les réseaux sociaux, tout le monde peut donner son avis. Et d'ailleurs, tout le monde devient philosophe hein, sur les réseaux sociaux. Donc
pas tout le monde.
Ouais, non, mais toute pensée est bonne à dire, quoi. Et donc c'est vrai que tu peux te prendre des vagues de haine assez ouf. Enfin, moi, quand j'étais sur Quotidien, j'avais regardé avant ce qui avait été fait par d'autres artistes. Qui avait fait la même chronique que moi, donc je suis remonté jusqu'à De Coné Garcia, et je me disais bah en fait ce qu'il faisait n'était pas très différent de ce que je fais moi, simplement c'est deux mecs hétéros, et ça passait très bien. Moi, comme je suis une drag queen, donc dans la tête des gens je suis forcément un mec homosexuel, je suis le diable et c'est pervers, donc de fait je me tapais toutes les menaces de mort possibles et inimaginables. Je suis le diable, c'est la fin de l'Occident, tu vas te prendre de l'acide au visage, enfin la totale. Il y a un moment, bon, bah, ça devient tellement absurde, je me dis, mais je les lis, hein, moi je les lis que les commentaires, j'ai pas ton courage, j'arrive pas à ne pas y aller, quoi, je lis tout. Et à un moment, ça devient absurde, tu te dis, mais ça n'a pas de sens, enfin, les gens seraient en face de moi, ils n'oseraient pas me dire ça. Donc j'arrive à m'en détacher. Par contre, je pense qu'il y a une responsabilité de la part des médias, et à commencer par Facebook, Instagram, et Twitter, enfin X, pardon, mais toutes ces plateformes, de filtrer, en fait. Il y a un moment, on a tous les moyens aujourd'hui de filtrer les commentaires. Moi, c'est pas normal que mes propres sketchs aient été censurés par la chaîne dans laquelle j'étais, qui n'ont jamais diffusé mes sketchs en ligne parce qu'ils avaient trop peur, justement, du nombre de commentaires haineux que j'allais recevoir. Ils me l'ont jamais dit, mais j'ai très bien compris. Je veux dire, au bout de 2 semaines, ils ont arrêté de diffuser mes pastilles, alors qu'on sait très bien que les sketchs qu'on fait à la télé ou sur France Inter, c'est aussi sur YouTube et c'est aussi sur les réseaux sociaux qu'elles continuent de vivre. Moi, elles n'ont eu aucune existence en dehors du direct. Et je me dis, c'est dommage parce que ça ne m'a pas servi. Et en fait, s'ils avaient juste filtré les commentaires au lieu de me protéger, j'aurais pas écrit tout ça pour rien, quoi.
Emeric, qu'est-ce que ça t'inspire, ça?
Tu venais en Paloma?
Ouais, j'étais en personnage toutes les semaines. Mais tu vois, il y a une semaine, je suis venu, j'avais un ministre écologiste, je ne sais plus qui c'était. Et je suis venu en
dans le gouvernement de Macron, pardon.
Non, mais je ne sais plus, c'était un spécial. J'ai oublié son nom, le pauvre. Enfin, il y avait un écolo qui était là et je suis venu en gourou de secte écolo, tu vois. Et je l'ai un peu dragué pendant mon sketch et automatiquement, c'était. J'étais l'objet pervers numéro un à abattre, quoi, tu vois. Ouais. Mais toutes les semaines, hein, enfin, pour une raison ou pour une autre.
Ouais, ouais.
Et franchement, protège-toi, à mon sens, lire chaque commentaire.
Non, mais je lis pas tout, mais je regarde.
C'est du suicide moral, parce que pour moi...
Oui, toi, en plus, t'as des commentaires... Et
moi, c'est Bouboule, le gros...
le chauve...
non, mais honnêtement, c'est vrai que ça fait énormément de mal, parce qu'il y a un commentaire sympa pour 10, et puis tu vois, c'est en plus provocateur, et je pense qu'il y a besoin de ce genre de chronique, ce genre d'humour un petit peu qui...
Oui, mais
qui
là, peut-être que tu cherchais les réponses à pourquoi t'as pas été reconduit, quoi.
Non, parce que c'est pas... c'est pas ça, parce que j'ai regardé dès le début, si tu veux, maintenant j'ai arrêté de le faire, mais comme quand tu fais des chroniques comme ça, enfin, t'as pas de public, donc t'as besoin d'un peu de savoir quelle est la température, et c'est vrai, t'as raison.
Ah, parce que c'était les gens que t'envoyais qui, c'était pas en public.
Non, il y avait un public, mais j'étais pas sur une scène, sur un plateau télé. Donc tu te rends pas vraiment compte de l'impact que ça a sur le public. Ouais. Je voulais voir les réactions et en fait t'as raison.
Oui, c'est ça.
Les gens qui commentent sur Internet sont rarement les gens qui aiment, c'est toujours les gens qui détestent.
Et oui.
Évidemment. Donc c'est pas du tout représentatif.
Et puis surtout, ce lâche, ils ont envie de... Pour moi, c'est cette image qu'on voit, une espèce de mème qu'il y a où tu vois deux chiens derrière une grille, qui s'aboient, puis dès que la grille n'est plus là, ils arrêtent tout de suite. Et la grille revient, ils se remettent à aboyer. C'est ça, c'est
la... Toi, t'as vu l'arrivée des mèmes en France
J'ai vu l'arrivée des chiens, des grilles, de tout. Moi. Demandez-moi si vous savez... je joue à timeline, moi, je peux vous dire quand on arrive à chaque truc. Mais en tout cas... C'est, je pense que ça fait vraiment du mal parce que ce n'est pas l'avis des gens. C'est vraiment complètement faussé et c'est souvent des idiots jaloux et qui veulent se faire.
Oui, mais le problème, c'est que là, quotidien, on écoutait ces commentaires-là.
Ah, mais bien sûr.
Tu vois.
Mais tous les programmateurs, tu dis le service public, maintenant, prend compte des émissions. Mais oui, parce que les idiots ont droit de citer les gens, les haineux, les machins. Mais en tout cas, au moins, si, que tu sois pas reprogrammé, de toute façon, t'as toujours des gens, des décideurs de radio, de télé qui le feront. Mais que toi, tu te fasses du mal, fais le truc pour toi. À mon sens, ne t'attache pas à lire les commentaires de gens qui ne sont pas ton public, qui ne sont pas faits pour toi.
Émeric Lompré.
Il m'a foutu les poils, l'autre.
Oui, mais...
Putain.
Après, je te dirai plein de trucs sur ta carrière.
Justement, quand tu as commencé à monter sur scène, à écrire des spectacles, etc., est-ce que pour toi, ça a été l'attrait de la scène tout de suite ou est-ce que tu t'aurais pu être youtubeur, par exemple?
Putain, mais moi j'ai découvert le métier de youtubeur en regardant le documentaire Squeezie et je connaissais pas trop l'univers youtubeur et c'est hyper cool, ça a l'air hyper cool. Et je pense que si j'avais eu les outils et l'encouragement de son père, hein,
t'avais pas d'ordinateur,
toi. J'avais un ordinateur, mais c'était pour tout le village. Ah, ouais, on allait checker les Allemands l'avaient oublié. non, moi c'était l'attrait de la scène, ouais.
Ouais.
C'était l'attrait, ouais, je voulais faire rigoler des gens, quoi. Et youtubeur, mais j'avais fait des petites vidéos, mais avec des copains au collège, mais C'était catastrophique, là.
C'était... Dans la cave, là, avec les...
Oui, 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 oui.
C'est pas bien, ça.
Après, il y a eu la prison.
Ouais.
Non, c'est la scène, non, YouTuber, non. Mais par contre, le documentaire de Squeezie, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ou pas, mais il est hyper intéressant quand tu connais pas le milieu et ça, je trouve que c'est des mecs, ils en voient de ouf, quoi.
Mais est-ce que ça, est-ce que aussi le fait qu'il y ait tous ces youtubeurs et ces youtubeuses, ça change aussi le rapport à l'écriture dans l'humour, tu penses? C'est une question difficile.
Ah bah là, ils font des vidéos, mais ça, il y a une info toutes les 1/1 millième de seconde, quoi. C'est des trucs. Et je pense que ça a dû participer à la progression de l'écriture et à ce que ce soit de plus en plus efficace. Parce que tu regardes des sketchs de, je sais pas, des proches, il y a un rire toutes les 3 minutes. Et tu regardes maintenant en 3 minutes 30, ça dépend des sketchs aussi. Et tu regardes maintenant les stand-up de maintenant, c'est vraiment ça rigole toutes les 15-20 secondes.
Mais t'as raison de dire ça parce que, par exemple, moi j'ai ma prod qui me demande régulièrement de faire des TikTok pour faire la promo de mon spectacle. Et on me demande de faire rire en 20 secondes. Je dis, mais c'est pas du tout ce que je fais dans mon spectacle. Donc c'est vraiment contre-intuitif pour moi de faire van, alors que j'ai besoin de 3 minutes pour installer une situation. Et en fait, maintenant, on est devenu très dépendant de ça, des réseaux sociaux. Enfin, tout passe par là. Et quand je dis, non, mais faites-moi faire de la vraie promo, ils me disent, ouais, mais c'est la promo, c'est TikTok maintenant. Tu vois, c'est devenu compliqué.
C'est aussi ça parce que ça coûte rien au producteur. C'est une aubaine. Aujourd'hui, on te demande d'arriver avec ta communauté, de remplir la salle toi-même. Ça coûte de l'argent de les mettre des affiches. Il faut se bouger, tu sais, dans les salles quand tu vas jouer. C'est pénible. Alors, vas-y, fais une vidéo et tu fais double boulot. Ouais.
Exactement.
Corinne, ouais. T'as encore quelques concerts à venir, si je ne m'abuse, sur la tournée de cet album R. On va les donner tout à l'heure. Essayer de rassembler nos notes, on en a beaucoup. mais ce qu'on se dit ce soir, etc., ça confirme aussi que l'humour, c'est une arme. Toi, tu le vois comme une arme aussi dans ton rapport à ta musique.
Ouais, ma musique, dans la vie, je trouve que la meilleure des réponses, plutôt que... la colère ou vraiment quand tu réponds avec un sourire quand tu te fais agresser, alors attention, je parle de y a différentes agressions, mais quand tu te fais emmerder dans la rue ou machin, en tout cas moi en tant que fille, oui, de répondre avec un sourire ou avec une grosse blague, à chaque fois que je l'ai fait, les mecs ils sont décontenancés, quoi. Et il y a un truc, hop, après il y a pas de... Mais au-delà de ça, moi en tout cas dans ma musique, ça m'a beaucoup inspirée. Je suis très fan de la scène belge indé, tu vois, Vive la Fête, des groupes comme ça très punk aussi, où dans le punk en fait il y a ce rapport là à la sensualité, à la féminité, à quelque chose de drôle aussi quand elle est là sur scène sublime et puis qu'elle crache comme ça et où elle se marre, c'est une sorte de sorcière chamane, elle est incroyable. Catherine Ringer a aussi ce truc là que j'admire profondément. Philippe Catherine, je me disais, tiens, en France il y a pas beaucoup de femmes en fait qui vont sur ce terrain là de l'humour en musique. Et moi, pour moi, ça a été un exercice libératoire, vraiment. Avant, je faisais du rock indé ultra mélancolique, que j'assume totalement, mais j'avais besoin, c'était un moment de ma vie, j'avais besoin de raconter cette part de moi. Et puis c'est vrai qu'en fait, il y a eu après la lumière qui est sortie, mon aspect plus joyeuse, et de me dire, tiens, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et c'est aussi, ouais, ça a été libératoire, vraiment. Mmh. Voilà.
Aymeric Lomprey, on s'est pas mal croisé en festival de musique. Non, ça, c'est la bière.
Ouais.
De musique, tu as même été programmé dans des festivals, y compris à Panorama, où tu as joué
en lendemain
le dimanche,
de LSD, ouais.
ou à Nuit Secrète en lendemain
Nuit
de
LSD.
C'était Nuit Secrète
en lendemain
de LSD, je crois.
Ouais, ouais.
On s'en souvient tous, tu vois, Fakir s'en souvient aussi.
Ah ouais. Oh. Ne faites jamais ça, les artistes qui se lancent.
Premier rang.
Hall.
Bah ouais, c'est nous, c'était plutôt la. Des trucs à l'ancienne. C'est l'absinthe, tu vois.
Pirate ramenait des...
Marquise.
Déjà, tu as toujours été dans les festivals de musique, c'est toujours quelque chose qui t'a plu, indépendamment de ta carrière d'humoriste. Mais qu'est-ce qui te plaît dans les festivals de musique?
Le camping.
Avec le LSD.
C'est vrai qu'un festival sans camping n'est pas un festival. Qu'est-ce qui me plaît dans les... Ça n'a rien à voir avec le thème de...
Non, ouais. Mais si, j'y viens.
Après, on va parler cuisine. Bon. Qu'est-ce qui me plaît? Bah, c'est sur...
La musique,
ouais. Non, c'est le public, je crois. Il est vraiment, c'est un public cool, quoi. Hyper ouvert et tout, puis... Et surtout la pro, enfin, ouais, j'aime bien les festivals. Mais j'aime bien aussi les pâtes bien cuites et tout. Enfin, je suis vraiment très traditionnel.
Mais quand on t'a proposé la première fois d'aller jouer en festival,
ouais,
pourquoi t'as
plus.
Dit oui tout de suite? Parce que j'ai dit oui à Panorama, t'as dit oui à Nuit Secrète.
Parce que j'avais un pass 3 jours gratuit. Et non, je voulais essayer, mais je le ferai plus parce que j'ai vraiment. Parce que moi, je joue le dimanche généralement dans les festivals.
J'étais en pleine forme hein, quand t'as joué. Hein.
Ah ouais, putain, ouais. Mais non. Ouais. Et moi, j'ai fait l'erreur d'arriver le vendredi. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ouais. Quand le public avance et recule alors qu'il bouge pas, c'est pas possible. Donc, je le ferai plus, mais c'était une bonne expérience. Une bonne expérience de jouer devant des gens que en descente, que ça. Et moins pire. Mais ça va se démocratiser, je pense, de mettre des spectacles d'humour dans les festivals. Bon, en tout cas, le public est super. Dans mes souvenirs.
Old Love, tu as sorti un single pour la Saint-Valentin.
Oui.
Et sur un nouveau spectacle que tu vas donner à la Maroquinerie, je crois, au mois de décembre.
Exactement, voilà. C'est
de musique, du coup, là, pour retour à la musique.
Oui, c'est ça. C'est nouvel album qui sortira l'automne et puis tourné en fonction, donc avec un peu partout, mais dont un premier passage à Paris avec la Maroc en décembre, ouais, tout à fait.
Après le spectacle dont on a parlé, c'est un kiff de retourner à la musique sur le projet Old Love.
En fait, j'ai toujours fait les deux en parallèle, ce qui me condamne parce qu'on a du mal à savoir exactement ce que je fais, mais je mélange évidemment. Je fais des spectacles d'humour où je mets de la musique et la musique où je mets de l'humour. Et donc, c'est toujours au croisement des deux. Mais là, on va dire que c'est la partie chanteur et uniquement. Voilà, c'est un vrai spectacle de chansons. Il y a des chansons marrantes.
Je l'ai vu et
c'est
super.
Ouais. Ouais. Rick est assez fidèle.
C'est vrai.
Tu as vu les deux derniers spectacles.
Ouais.
Ouais. Non, c'est cool. J'ai la chance de pouvoir faire tout ce que j'aime, mais c'est vrai que quand j'ai fait que des spectacles humoristiques, il me manquait quelque chose. C'était, on n'est pas tout le temps à se marrer, on a besoin de dire des choses que tu fais au travers même de l'humour, évidemment. Je connais moins évidemment vos univers, mais je le sens et je le lis au travers de ce que vous racontez. C'est vrai qu'on a besoin de dire des choses graves dans le. Et l'humour, c'est une pudeur, c'est pouvoir faire passer beaucoup de choses. Et moi, c'est quand il y avait que de l'humour, des spectacles entièrement marrants, même si on faisait passer des choses, il manquait un peu de premier degré. Et ça fait du bien de pouvoir aussi chanter, quand tu es chanteur, de pouvoir juste chanter et de retrouver le bonheur de chanter des histoires simples, y compris pour dire des choses qui sont pas tristes, enfin mais
c'est un dur équilibre à trouver.
Ah ouais, moi il a fallu que je l'apprenne.
Entre, ouais.
Ah ouais.
Et moi je suis allé voir un film là d'ailleurs, ça s'appelle Nous les Leroy. C'est le film de Florent Bernard.
Avec Charlotte Gainsbourg et José
Garcia.
Ouais.
Et ben ils ont réussi parfaitement à faire ça, à faire et des blagues et un truc un peu premier degré, un peu émouvant et tout quoi. Mais pas pathos, tu vois, mais l'équilibre est toujours dur à trouver. Je t'ai coupé, pardon.
Non, mais ça allait complètement dans le sens, donc. Mais je trouve que c'est nécessaire de trouver ça. Et du reste, c'est ce qui peut rendre aussi l'humour... le faire passer mieux. Parce que quand tu lis la personne aussi qui est derrière, même si tu t'inventes un personnage, si tu arrives à lire ce qu'est la personne et tu vois l'humain qu'il y a derrière, je pense que le truc est à moitié gagné. Beaucoup de gens se font avoir par un personnage qui est trop violent, qu'on a du mal à lire.
Mais c'est pour ça qu'on peut pas séparer l'homme de l'artiste, je trouve. Non, mais c'est vrai. C'est vrai.
Peut-être.
On peut pas rigoler si c'est un connard ou alors aimer si c'est un violeur, quoi. Ouais, je t'ai encore coupé, mais là, c'est...
Non, mais
je me fous une autre bière.
Hugo Bardin, Palomo Pluriel, ça redémarre dès demain.
Oui.
Avec le casino de
les Folies Bergères.
Folies Bergères, excusez, je les confonds toutes les deux. Les Folies Bergères un peu plus tard. C'est quand même une belle histoire hein, cette tournée, la tournée de ce spectacle.
Ouais, bah on avait 10 dates et puis là on en a pas loin de 100. C'est fou. Ouais, je fais deux Folies Bergères demain après-demain, j'avoue que c'est assez dingue quoi. C'était pas prévu du tout, je commence à l'Européen et et le public est là donc je continue.
Tout est complet.
Ouais, partout. Ouais.
Amérique Lampré, pareil, il reste...
De Folies Bergères, juste après, moi, je fais de Folies Bergères.
Juste après,
oui.
On est pas mal complet aussi sur la tournée d'Yolo. Hein.
Ouais, c'est cool, ouais.
Ouais, c'est cool.
Amérique complet, ouais.
Mais je crois qu'on y est presque, hein, Fakir, à la carrière d'humoriste. Hein.
Non, je suis annexe. chez le prompteur.
Corinne, tes prochains concerts
Moi, c'est la fin de la tournée, là. Donc, vraiment, tu vois, il y a une date en mai, mais je ne sais plus où c'est. Dans un petit patelin.
Lola,
un petit festival,
noté.
Musilac, en juillet. Un autre
ça
festival en août.
Ça doit être dans l'Arzac, ça, Musilac, un truc.
Non, Musilac, c'est Aix-les-Bains. Mais non, ouais, j'ai quelques festivals, il faut regarder sur les réseaux sociaux.
Donc, ouais, c'est 25 mai, festival Changer d'air, et le 13 juillet au festival.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais.
Corinne, je vais te laisser rejoindre les platines parce que tu vas
avec
mixer
joie.
Le temps que je dise au revoir à tout le monde pour nous. Fakir, la suite pour toi, c'est quoi? Alors, c'est mixer après Corinne déjà pour nous sur Tsugi Radio ici au Carmen. Et après, tu as pas mal tourné donc l'été dernier, notamment avec l'ami Donio pour parler de toutes ces questions qui t'agitent et DJ7. Ça continue. Il y a de nouvelles musiques qui arrivent bientôt.
Le planning de sortie, c'est pas encore tout à fait établi. Faut pas que je dise trop de bêtises parce que la prod est là.
Tout ton label qui est là.
Voilà. Mais par contre, on est en tournée. En fait, j'ai sorti un album là, début de l'année, mi-janvier, et on est en tournée encore de cet album là. On fête aussi les 10 ans du coup du label cette année, donc on va faire des teufs un petit peu partout. Il y en aura une à Paris sans doute en octobre. Donc voilà, c'est une année bien chargée aussi pour moi. J'espère te recroiser, Aymeric, sur quelques festivals.
Il y a pas de souce, mais je serai pas au boulot quoi.
Ouais, mais ce sera hyper bien.
Je serai en vacances.
Merci beaucoup, merci Lola Avril.
Merci Antoine Dabrowski.
Merci Remise Musique, Bruno Pradel et Martin Berthelot. Merci à Luc Leroy et Rémi Pierre. Et merci à Aymeric Lompré, Oldelaf, Fakir, Hugo Bardin alias Paloma et Corinne qui va mixer. Et merci au public du Carmen. Corinne, c'est quand tu veux.
Tsugi Radio.
Remise Session en direct du Carmen.
Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.